Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Comic City. Donc comme tout numéro spécial qui se respecte, hein, c'est moi Jean-Lô qui présente ce soir. Et donc ce
Ouais,
soir...
ça va peut-être aller là, mon petit Jean-Lô?
Steve, qu'est-ce que tu fais?
Tu fais un spécial une fois, ça y est
Mais oui, mais je croyais que tu devais pas venir là pour...
Eh bien non, c'est moi qui décide.
Ok, bon ben vas-y chef, je t'en prie.
Un petit peu plus de cirage de pompe et ce sera parfait, monsieur.
Ok.
Bon, alors je rends la paternité de cette intro à Jean-Lô, hein, tout de suite.
Merci,
Fait.
merci.
Oui, donc comme Jean-Lô vous l'annonçait, un Comic City spécial. On en avait parlé pendant le live. On vous avait soumis l'idée. C'est quelque chose que vous vouliez entendre. Et donc nous l'avons fait. Le spécial série. On va vous parler un petit peu des séries que l'on aime. On va en débattre un petit peu. Alors, pour plus de lisibilité, nous avons choisi de scinder l'équipe en deux, puisque faire ça à 9 participants, ça risque d'être un petit peu trop gros. Donc, vous aurez deux émissions. Une première vague avec les invités, enfin, les invités, les chroniqueurs que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et puis, une deuxième vague un peu plus tard, au mois d'août. Dans cette première émission, vous avez avec moi Nono.
Bonjour, bonjour à tous, et moi j'ai décidé de vous parler de la fête à la maison.
Eh ben, quel programme! Nous avons Corwin.
Bonsoir les gens, moi je vous parlerai Comic-Con de Paris oblige des frères Scott.
C'est ton choix. Nous avons King Ed.
Oui, bonjour à toutes et tous, et moi je vais vous parler de Dawson.
Et pour terminer, Jean-Lô.
Et oui, bonsoir tout le monde, et puis bah moi je vais rester dans le fantastique et je vais parler de Xena la guerrière.
Bien sûr. Quant à moi,
Toi, Steve, de quoi veux-tu nous parler?
j'ai choisi un de mes grands coups de cœur depuis ça de nombreuses années, la série Dallas, la première.
Putain, j'adore!
Voilà.
Je suis quand même déçu que personne ne parle d'Art Lecor à vif.
Ah, mais j'aurais
La
pu.
deuxième émission.
Ouais.
Allez, on va commencer tout de suite. C'est Nono qui va commencer à nous parler d'une de ses séries coup de cœur.
Ouais, tout à fait. Donc bon, je vais pas vous parler de la fête à la maison, hein, bien évidemment. Je vais vous
Bon.
parler de la série Eureka. Donc c'est une série américaine qui a commencé à être diffusée en 2006 aux États-Unis en juillet 2006. En fait, c'est typiquement la série de l'été. Ça fait partie de ces séries qui passent comme Weeds, etc., qui passent que l'été. Série assez courte parce que les saisons font en moyenne entre 13-14 épisodes à peu près.
Bon,
Une
ça va
série
peut-être un
que...
peu plus, hein, d'habitude, c'est plutôt 16, moi je dirais, hein.
Ouais, mais ça, c'est pas
Mais c'est pas
une...
régulier, c'est ça le problème, quoi.
Voilà, c'est pas une saison de 22 ou 24 épisodes comme les séries qui passent tout au long de l'année qu'on a l'habitude de voir. Voilà, une série qui est diffusée aux États-Unis l'été, qui a été diffusée en France à partir de 2007. Alors, en France, elle a une audience un peu restreinte parce qu'elle n'est diffusée que sur Série Club. Donc, qui n'est pas une chaîne que tout le monde capte.
C'est d'ailleurs une chose que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi M6 n'avait pas acheté cette série parce qu'elle correspond tout à fait à son type
Ouais.
d'audience, hein.
Bah oui, ouais, complètement. Et même M6 ou une autre chaîne, parce que c'est vrai que c'est une série. Bon là, on en est à la cinquième saison. On enregistre aujourd'hui le 17 juillet et les deux derniers épisodes, donc le série finale, a été diffusée hier soir aux États-Unis. Donc la série s'arrête au bout de cinq saisons. 79 ou 80 épisodes, un truc comme ça, en tout et pour tout. Voilà, bah j'ai dit ce que j'avais à dire au suivant.
Mais il y a quelque chose que tu n'as pas précisé, qui je trouve manque, c'est l'expliquer aussi comment cette série a été diffusée. Parce qu'elle a été diffusée sur Syfy, c'est une série du câble, donc avec une audience un
Oui.
peu plus restreinte. Logique, hein, le câble étant payant, forcément tout le monde n'y a pas accès.
Oui, tout à fait.
Mais surtout, c'est une série qui n'a pas, qui pourtant a une base de fans, mais qui n'a jamais été vraiment reconnue par la chaîne Syfy.
Ouais, alors que le pilote a explosé les records d'audience de la chaîne parce que il a réuni pour Syfy qui est une petite chaîne, rappelons-le, il a réuni plus de 4 millions de téléspectateurs pour le pilote. Donc
C'est
c'est
vraiment pas mal, hein.
ce qui est pas mal parce que les autres gros shows de la chaîne à l'époque c'était Battlestar Galactica, Stargate, Stargate SG-1 et Stargate Atlantis et donc ça a fait la plus belle audience de l'année pour la chaîne Syfy.
Et ce qui est bizarre, c'est que du coup, on a eu une diffusion qui est extrêmement chaotique, et je
Ouais.
pense que si la série s'arrête aujourd'hui aussi, c'est d'une parce que Syfy cherche à l'annuler depuis très longtemps. et qu'ils étaient sous contrat avec le créateur de la série. Mmh. Et puis, à cause de sa diffusion, parce que les gens sont un petit peu partis, même si elle continue de faire des audiences tout à fait respectables.
Oui, et puis surtout qu'à la base, l'année dernière, Sci-Fi avait annoncé une 6e saison, beaucoup plus courte, de 6 épisodes, il me semble, pour vraiment clôturer la série. Et 2 mois après, ils sont revenus sur leur décision et ils ont dit non, la 5e, ça sera la dernière.
Et alors, le souci de cette diffusion, c'est comme tu l'as dit, hein, ça a commencé en 2006. Nous en sommes qu'à la 5e saison.
En 2012, ouais.
En 2012. Et tout simplement, puisque, comme toutes les séries du câble, généralement, elles font un break à la fin de l'été et elles reviennent vers le mois de novembre. Pour combler pendant ce fameux break d'hiver.
Ouais, voilà.
Eh bien, à partir de la saison 3, Sci-Fi n'a pas reprogrammé Eureka pour le break d'hiver. Et a laissé tout le monde dans l'attente, sans aucune nouvelle de ce qui allait advenir de la série. Tout le monde pensait qu'elle allait même être déprogrammée complètement. Et finalement, la deuxième partie de la saison 3 est arrivée l'été d'après. Et chaque saison depuis, donc c'est-à-dire pour la saison 3 et la saison 4, ont été diffusées en 2 ans. Ouais. Ce qui est une diffusion que je trouve aberrante.
Ah oui, c'est pour ça que voilà, en 6 ans, on n'a que 5 saisons.
Mais ça parle de quoi en fait? Ouais, parce que
c'est la question que j'allais poser, mais c'est
parce
très bien.
Parce que moi j'ai vu que le premier épisode, ça m'a pas du tout capté l'attention. Alors, et donc j'aimerais savoir.
C'est assez atypique, on va dire, comme série. En fait, ça part du postulat que après les événements d'Hiroshima, etc. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques étaient plus très bien vus par le grand public. Et donc avec l'aide d'Albert Einstein, le président à l'époque c'était Truman, il a créé une ville complètement cachée du monde, qui apparaît sur aucune carte, qui est vraiment totalement inconnue. Une ville qui s'appelle donc Eureka, qui signifie
J'ai trouvé,
voilà, en grec, et qui regrouperait en fait tous les meilleurs scientifiques du monde. Donc une ville avec que des scientifiques. C'est-à-dire que le restaurateur, par exemple, c'est un scientifique de la restauration qui crée des nouvelles recettes.
Il fait de la cuisine moléculaire.
Voilà, qui fait, c'est lui qui a inventé la cuisine moléculaire. Et ils partent du principe que toutes les inventions qu'on connaît à l'heure actuelle depuis une 50aine d'années sont nées à Eureka. Que ce soit le téléphone portable, la télé couleur, tout ce qu'on peut utiliser à l'heure d'aujourd'hui vient d'Eureka. Donc ça, c'est le postulat de départ. Après, la série, en fait, s'attarde sur le personnage de Carter, Jack Carter, de son prénom, qui est un flic et qui emmène sa fille. Le premier épisode démarre comme ça. Il traverse les États-Unis avec sa fille parce qu'elle a fait une connerie, il doit la ramener chez lui.
Et surtout que c'est un marshal, en fait, donc il a été parti la chercher comme un crevard.
Voilà.
C'est ça qui est terrible.
Le truc un peu marrant, c'est qu'au début, on ne sait pas que c'est sa fille. On pense justement que c'est une nana qu'il a arrêtée, etc. Et il tombe en panne à Eureka. Et donc, il va commencer à découvrir un peu cette ville. Au début, ils n'ont pas le droit de lui dire que c'est une ville de scientifiques. Donc, il a un peu halluciné parce qu'il voit des trucs qu'il n'a jamais vus ailleurs. Et de fil en aiguille, en fait, il va devenir le shérif de cette ville. Et c'est lui, en fait, le représentant de l'ordre dans cette ville, et il va devoir gérer toute la sécurité de la bourgade.
D'accord.
Et voilà. Et en fait, vu que c'est que des scientifiques qui sont tous plus ou moins fêlés, ça va créer à chaque épisode, en fait, il y a une catastrophe, c'est la fin du monde, etc.
Ah, mais oui, c'est pas des petites catastrophes, quoi. C'est vraiment le truc qui peut détruire la planète à chaque fois.
Ces gens, ils font un concours de fusées. Les fusées, il y en a un qui les déprogramme et les fusées vont toutes vers le soleil. Et s'ils les arrêtent pas, le soleil, il explose, quoi. C'est des trucs, c'est vraiment complètement improbable. Improbable, mais pas tant que ça, parce que tu peux entrevoir le futur. Parce que, par exemple, pour téléphone portable, c'est des tout petits trucs qui font le 5e ou le 6e de la taille d'un smartphone à l'heure actuelle et pourtant qui fait tout.
Oui, et puis jusqu'à la fin où ils vont même se faire implanter une espèce de petite puce derrière l'oreille devant les dernières saisons qui leur permet d'avoir le téléphone.
Voilà.
C'est amusant, ça me fait penser à dans 52 quand on a tous les scientifiques de l'univers DC qui se retrouvent sur une île pour travailler et tout.
Oui, mais c'est un peu le même délire.
Ils font tous plein de conneries et tout.
C'est un peu le même délire en fait.
C'est un peu le même truc. Et donc forcément, c'est une série américaine, c'est un peu soap. Il y a des histoires d'amour, il y a des trahisons, il y a des meurtres. Il y a toute une galerie de personnages. Donc les acteurs sont vraiment pas connu, hein, à part Joe Morton qui a fait pas mal de séries, qui est l'acteur le plus vieux, on va dire, c'est celui qu'on connaît le plus au niveau du visage. Sinon, les autres acteurs principaux ne sont absolument pas connus. J'ai regardé justement en préparant l'émission ce qu'ils avaient fait avant. Et, voilà, il y en a un qui est apparu dans Les Experts, l'autre qui est apparu dans Warhouse. Donc voilà, c'est vraiment pas des gens connus.
Bah, et je me trompe peut-être, mais Joe Morton, c'est donc celui qui fait Henry.
Oui, tout à fait.
Qui jouait, si je me rappelle bien, le rôle du scientifique déjà dans Terminator 2.
Oui, et qui jouait également dans les Blues Brothers 2000.
Et ça me fait marrer de le voir dans un autre rôle de scientifique où dans Terminator, il a quand même failli détruire le monde en créant Skynet. Et que mais il joue encore un rôle de scientifique moitié fêlé, quoi.
Ouais. Et donc, c'est une série vraiment à prendre au 36e degré, parce qu'il y a absolument rien de sérieux. C'est sous couvert du ministère de la Défense américaine. Donc, voilà, c'est la majorité de leurs expériences tournent autour des armes de guerre ou de la protection, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Comme on en discutait un peu hors tournage, j'allais dire, hors émission, le début peine un peu. Il faut vraiment essayer de rentrer dedans et donner sa chance à la série et attendre le troisième ou quatrième épisode pour vraiment voir tout l'humour qu'il peut y avoir dans cette série. Et après, ça part, mais dans tous les sens. On a des univers parallèles, on a vraiment de tout. On a des trahisons alors qu'on soupçonnait absolument pas les personnes. Jusque là où au final, j'attends que mon cousin des États-Unis m'envoie par mule le dernier épisode.
voilà, c'est soit à mule, soit par un bateau sur torrent qui va vite, quoi.
Voilà, sur un torrent avec plein de sexe, quoi.
comme c'est une série de SF, qu'en est-il des effets spéciaux, la qualité des effets numériques, parce que
ils misent pas vraiment dessus. En fait, t'as pas de gros effets spéciaux, quoi. Faut se rappeler quand même que c'est une série du câble. C'est pas une série qui passe sur ABC ou sur la Fox.
Ça reste comme sci-fi, ils ont quand même des moyens, notamment pour tout ce qui est SF.
Mais c'est
ouais, parce que tu me parles de roquettes qui vont faire exploser le soleil, là tout d'un coup j'imagine le truc immense, quoi.
C'est un peu cheap sur les deux premières saisons, on va dire, et plus ça avance, plus la qualité des effets spéciaux est carrément bonne, quoi.
Ouais. En plus, on a énormément de guests qui sont passés tout au fil des cinq saisons, donc ça va faire plaisir à Jean-Lô, mais par exemple, on a Michael Shanks. Daniel Jackson dans Stargate,
qui est un des guests que l'on voit partout. Hein.
J'aime pas Stargate de toute façon. Donc.
on a Will Wheaton qui a joué dans Star Trek Generation et qui a également un petit rôle dans Big Bang Theory.
Oui, qui joue dans The Guild aussi.
Ouais.
Beaucoup plus récemment, voilà, c'est Will Wheaton, quoi. C'est une icône geek lui encore. Encore aujourd'hui, hein.
Ouais, carrément. Donc on a pas mal de guests. Il y a beaucoup de références.
Félicia Day aussi joue un gros rôle dans ces deux dernières saisons d'ailleurs.
Ouais. Et c'est vraiment très très fun à regarder. On s'ennuie pas. Tous les épisodes sont. Alors il y a une trame générale à chaque saison, mais les épisodes peuvent se voir individuellement aussi. C'est pas à part certains épisodes clés où on va parler de la trame. Mais un peu comme à l'époque de X-Files où voilà, on pouvait regarder un épisode comme ça en passant et ça passait tout seul, quoi.
Ce qu'il y a d'intéressant aussi à noter dans cette série, c'est que au moment de la saison 4, il y a un énorme bouleversement dans la série qui redistribue complètement les cartes, en fait.
Ouais.
On peut pas dire pour pas spoiler, mais vraiment tout l'univers de la série change après le début de la saison 4.
Et même au début de la saison 5, on se dit « Merde, ça rechange encore une fois. » Et ils réécrivent les codes de la série sur les deux dernières saisons, quoi, mais complètement. C'est-à-dire que tout ce, à la limite, vous pouvez même prendre à la saison 4, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est faisable. À noter qu'ils ont eu des crossovers avec une autre série de la chaîne Sci-Fi, Warehouse 13.
Ouais, il y a eu deux crossovers.
Mais qui en plus peuvent être vus indépendamment, hein. Ce sont plutôt des personnages qui viennent faire un tour.
Voilà, il y a un épisode de Reka où il y a un personnage de Warhouse 13 qui vient, et l'année d'après c'est un personnage de Reka.
C'était la même semaine.
C'est la même semaine.
Et il y en a eu un autre justement, je crois, cette saison aussi.
D'accord. Mais vu que je suis pas Warhouse 13.
C'est dommage parce que si tu aimes Reka, normalement Warhouse 13 c'est une série qui devrait te plaire aussi.
D'accord. Donc, comme je l'ai dit, en France, c'est diffusé sur Série Club. Là, ils ont fini de diffuser la saison 4 le mois dernier, il me semble.
La VF est correcte. Moyenne, mais correcte.
C'est vrai.
Ça reste plus appréciable en VO, honnêtement.
D'accord. Et par contre, vous avez l'occasion de les retrouver en DVD. Les quatre premières saisons sont disponibles à la FNAC. Donc les trois premières saisons sont aux alentours de 15-16 euros. Et la quatrième est à 20 euros ou 22 euros, un truc comme ça à la FNAC.
Normal, elle vient de sortir.
Voilà. Et également...
C'est la FNAC, c'est parce que c'est une exclue, parce que parfois, il y a des DVD qui ne sortent qu'à la FNAC.
Non, je pense que c'est trouvable partout, mais moi j'ai regardé sur la FNAC, parce que c'est, okay. Voilà, si tu cherches un truc, en règle générale, tu trouves sur la FNAC, mais je pense que c'est trouvable partout. Par contre, il y a également eu une série de comics dessus, édité chez Boom. Il y a eu une série régulière, mais qui n'a pas duré très longtemps. Alors, j'ai pas pu trouver beaucoup d'infos.
Qui était écrite par le créateur de la série, d'ailleurs, oui. Showrunner.
Ouais, Andrew Cosby. Et apparemment, il y a eu quatre épisodes de la série régulière, et ensuite il y a eu un arc qui s'appelait Eureka Dormant Jean.
Et il y a des rumeurs comme quoi il pourrait continuer en comics une fois la fin de la série.
Je pense que quand ils ont vu le succès de Buffy en comics, ça a dû ouvrir pas mal de voies. Buffy ou Smallville, ça a dû.
Pas principalement Buffy, hein, parce que c'est vrai que c'est le premier exemple de série qui marche à ce point après la fin de la diffusion.
Ouais. Donc vraiment, c'est une série très intéressante, mais sur la première saison, sur les premiers épisodes, faut s'accrocher un petit peu. C'est pas évident à rentrer dedans. Ma copine, par exemple, n'a pas du tout accroché. C'est une série que je regarde tout seul. Et après, vraiment, c'est que du bonheur.
Ok. Donc, personne d'autre à part Nono et moi la regarde, cette série?
Non, mais il m'a donné envie, là, d'essayer.
Oui, moi, j'allais dire la même chose, en fait. Je pense que j'irai jeter un oeil.
Puis bon, sachez que c'est une série terminée maintenant, donc voilà, vous avez 5 saisons à voir et ça s'arrête là. Ça peut être aussi un facteur qui donne envie de voir une série parce qu'elle n'est pas non plus extrêmement longue.
Oui, puis c'est 80 épisodes, c'est pas 5 saisons de 24 épisodes, quoi.
Ça joue aussi, oui, effectivement.
Donc les saisons sont courtes et en règle générale on a la résolution de la trame du mois de la saison plutôt à la fin de la saison.
Ok, on va passer à Corwin maintenant qui va nous présenter une série qu'il aime tout particulièrement.
Voilà, donc moi je vais vous parler d'une série policière. Enfin, ça dépasse même l'aspect policier par certains aspects. Ça s'appelle The Wire. Donc, c'est une série qui a été diffusée par HBO entre juin 2002 et mars 2008. Il y a 5 saisons qui font. Alors, ils n'ont pas un nombre d'épisodes réguliers. Ça va entre 13 épisodes et 10 épisodes pour la dernière. Donc, en tout, il y en a 60. Et donc, elle a pour thème la criminalité et le trafic de drogue dans la ville de Baltimore.
Déjà, c'est une ville que l'on ne voit jamais dans une série américaine, Baltimore, quand même.
Et c'est la série qui donne pas envie d'aller à Baltimore. <aussi. Non. rire>
Déjà, il faut savoir que c'est une série qui a été créée par un ancien journaliste de Baltimore, et elle a été coécrite avec un ancien flic, justement, de cette ville-là. Et donc, en fait, le thème nous amène à suivre une équipe de policiers qui sont chargés d'enquêter sur le trafic de drogue. Et puis en parallèle, on voit tous les gens qui sont inclus vraiment dans le trafic. Donc que ce soit les dealers avec leurs équipes de revendeurs, l'approvisionnement avec les dockers, l'aspect un petit peu carcéral, mais ils y passent pas un gros moment dessus. Après, il y a l'aspect éducatif. Les gosses dans tout ça, comment ils s'inscrivent dans tout ça. Et puis l'aspect politique également, avec la course à la mairie, le trafic d'influence, la corruption. Donc en fait, c'est une série qui dépasse un peu le côté policier, ça touche un peu à tout. Hein. Et c'est vraiment super intéressant. Des intrigues à tiroir, par contre, on peut pas regarder juste un épisode comme ça en passant. Il faut les enchaîner tous, les uns après les autres. La difficulté pour se mettre dedans, j'allais dire, c'est de passer le premier épisode qui plante le décor, mais après ça va à une vitesse folle.
Ça a été mon cas, moi j'ai bloqué sur le premier épisode. J'ai trouvé intéressant, mais je me suis dit bon voilà, j'ai autre chose à voir, et j'avouerai que je l'ai vu dans une qualité qui était pas très très propre, et ça m'a pas donné envie de continuer en fait.
Bah, il faut dépasser le premier épisode, et là on se plonge dedans, et c'est que du bonheur, quoi.
Et pourtant, enfin, c'est une série qui, tel un comics, hein, fait partie de ma grande liste. La liste des trucs
simple,
à voir.
Hein, ça déchire. Hein, c'est peut-être la meilleure série télé du monde. Quoi.
Elle a été décrite comme ça. Elle a été acclamée par la critique. Elle a été nommée pour pas mal de prix. Elle en a reçu quelques-uns, dont le prix de la Guilde des écrivains, des écrivains de séries télé aux États-Unis.
La Guilde des scénaristes, ouais.
Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Elle a été nommée pour les Emmy Awards. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses.
Mais c'est un gros succès critique, ça c'est sûr, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà.
Après, il y a beaucoup de personnages dans cette série-là aussi, donc on peut pas tous les citer, mais il y a par exemple Dominic West qui joue dedans, donc on l'a vu dans 300, dans John Carter de Off Mars aussi.
McNulty.
Qui joue le rôle d'un des policiers, McNulty, voilà. On peut parler de qui d'autre, parce qu'il y en a pas mal quand même. J'ai plus son nom, Aidan Gillen. Donc, si vous suivez le Trône de Fer, vous le retrouverez dans le rôle de Littlefinger. Donc, lui, il joue un politicien qui a en vue la mairie de Baltimore. Alors, le problème, c'est que c'est un blanc et que Baltimore, souvent, c'est des noirs qui sont élus parce qu'il y a une forte communauté là-bas. On a Clark Peters aussi qui a été pris pour jouer dans une série sur le jazz qui s'appelle Trimmy, qui est pas mal. Enfin, voilà, il y a pas mal de monde. Il y a aussi un rappeur, enfin. Ça touche vraiment à tout. Et il y avait aussi notamment une actrice qui est en fait une ancienne délinquante qui est retournée en prison il n'y a pas longtemps parce qu'elle a replongé. Qui joue le rôle d'une délinquante dedans.
Ouais, ça montre le réalisme de la série. Et ouais. C'est vrai que c'est une série qui mise beaucoup sur la qualité de ses acteurs. Et ils sont tous énorme, enfin franchement.
Ils sont tous très bons, ouais.
Il y a le duo justement entre McNulty et Bunk, donc qui est son compère Black flic. Ça amène parmi les meilleures scènes de la télé souvent quand ils sont ensemble.
Ils sont un moment sur une scène de crime et les dialogues sont très simples, mais ça hurle de rire. Donc à regarder en VO bien évidemment, sinon ça devient beaucoup moins drôle. Il y a aussi un bouquin qui reprend un petit peu le travail des deux auteurs qui s'appelle The Corner, donc qui reprend un petit peu ce qui les a amenés à écrire cette série-là, tous les faits qu'ils ont connus à Baltimore. Et puis après, on peut parler un peu du découpage. Il y a 5 saisons. La première saison permet de mettre en place un petit peu la trame de fond, ou vraiment le côté enquête. Pendant la saison 2, on va s'attarder plus sur l'approvisionnement avec les docks de Baltimore. La saison 3, on revient sur les gangs Black. La saison 4, on passe sur le côté éducatif. Et enfin, la saison 5, c'est le côté presse et politique. Enfin, la politique est entre la saison 4 et la saison 5. Donc, toujours avec des intrigues à tiroir, certains personnages qui se font des beaucoup de putes au niveau politique. Enfin,
C'est une série qui se permet tout, en fait, en plus, et qui traite des sujets vraiment très, très durs, très graves, et qui le fait d'une façon vraiment réaliste. Et
très intelligente.
Et très intelligente, oui.
Et il y a pas mal de pistes de réflexion qui sont lancées sur comment réagir face au trafic de drogue, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, des solutions qui paraissent complètement dingues au départ, et qui finalement sont pas si bêtes que ça. Donc ça pousse en plus à la réflexion, quoi. Ça, on peut pas se contenter de juste la regarder en mettant le cerveau sur pause, ça c'est pas possible, parce que la série va pousser le spectateur vraiment vers la réflexion. Alors, faut aimer les cop shows, mais enfin, pour moi, ça dépasse même le simple cop show. Hein.
Et c'est une série où je trouve qu'il n'y a pas de stéréotype, en fait. C'est vraiment réaliste.
C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le développement de chaque personnage sur l'ensemble des 5 saisons est assez hallucinant. Il passe par toutes les étapes et il y a une caractérisation propre de chacun. Ils évoluent tous à leur manière. Et c'est juste génial, quoi, de ce point de vue-là.
Alors, à noter quand même que cette série en français ne s'appelle pas The Wire, elle s'appelle Sur Écoute.
Ouais.
Ça peut aider certains à s'y retrouver.
Ouais, c'est une traduction. Bon, ils auraient dû laisser le nom VO, moi, je trouve.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur à cette série, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est que c'est basé sur justement l'utilisation des méthodes d'écoute, justement pour écouter les lignes téléphoniques. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, et vu qu'on Ça se modernise, on passe des écoutes traditionnelles avec les vieilles bandes, après à comment gérer quand maintenant il y a les téléphones portables, après comment ça se passe maintenant qu'on a l'informatique. C'est vrai que c'est un fil conducteur sur les cinq saisons.
Et d'ailleurs, là-dessus, il y a une inventivité des trafiquants quand ils savent qu'ils sont mis sur écoute pour déjouer tout ça. Et c'est pendant les cinq saisons, c'est le jeu du chat et de la souris, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les trafiquants trouvent une parade, il y a de très bons flics qui trouvent une parade à la parade, et ça s'enchaîne. Et puis, c'est des flics qui vont pas tout le temps être carrés dans la procédure parce qu'ils veulent résoudre leur enquête. Donc, ils vont trouver d'autres moyens. Pas forcément légo, mais pas bête. Et ils arrivent à trouver toujours une solution intéressante, quoi.
Est-ce que c'est d'une série que vous avez regardé, vous, Nono et Jean-Lô?
Non,
qu'il y a
pas du tout.
Que tu l'avais vu toi aussi.
Ah oui, moi j'adore cette série.
Moi je l'ai pas vu, mais j'avais déjà entendu parler de cette série, ça m'avait vraiment donné envie. Alors effectivement, moi j'avais eu le problème de déjà trouver The Wire en français, j'avais pas trouvé. Après, quand j'ai compris que c'était sur écoute, je m'y suis pas encore mis, mais c'est vrai que ça m'intéresse assez. Ouais, comme...
Et voilà, donc elle est disponible, je pense, que ce soit la Fnac, Virgin, Le Furet.
Oui, il y a carrément des intégrales qui sont sorties récemment à des prix corrects. Ouais.
C'est une série qui t'intéresse, toi, Nono, ou pas?
Ben là, ouais, d'après ce qu'il a dit, ça me dit bien, mais c'est comme toi, c'est une série qui est sur la liste. Mais j'en ai tellement, je regarde tellement déjà de séries à l'heure actuelle que par exemple je regarde True Blood, la dernière saison, les épisodes s'entassent et je les ai pas encore regardés, quoi.
Et ça fait chier aussi.
Et par exemple, à côté de ça, je joue un petit peu à des jeux de rôle, notamment un jeu de rôle qui s'appelle Cops, où les personnages intègrent une unité d'élite de la police de Los Angeles dans un futur proche. Et à la base, c'est un pote qui m'a dit regarde ça pour toi, concevoir tes scénarios et compagnie. Et c'est vrai que si on aime bien l'univers policier, c'est juste énorme, quoi. C'est pas comme dans Les Experts ou encore même NCIS, que j'aime beaucoup, où ça va aller très vite pour résoudre quelque chose. Là, on montre vraiment aux gens qu'une enquête, ça prend le temps. Et puis des fois, elle finit dans un carton et elle ressort un an, deux ans plus tard quand on a un nouvel élément pour coincer le type. Donc c'est réaliste. C'est réaliste au possible. Et c'est pas manichéen, parce que moi, je me suis retrouvé à... Il y a certains personnages que j'aime beaucoup qui sont des bad guys, c'est des trafiquants de drogue. Mais ils ont leur personnalité. Alors il y en a un, c'est le personnage préféré de Barack Obama. Il s'appelle Omar, et lui, c'est un truand qui truande les trafiquants de drogue.
Et est-ce qu'il a tué?
Ah oui, il a tué, oui. Mais pas qu'une fois.
Non, parce que Omar m'a tué, quoi.
Mais justement. Puis lui, il y va au fusil à pompe.
c'est le super-héros des banlieues, un peu, mais il y va. Voilà, ouais.
Et quand il fait Omar dans le quartier, tout le monde chie dans son froc, quoi.
Et du coup, il fait souvent des coups de filet. Ça fait des filets de homard. Bon, bref.
Oh non.
Et un petit détail, c'est une série où on rit aussi beaucoup parfois. C'est très tragique par moments, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a des personnages, surtout parmi les flics. Il y a deux, trois persos vraiment complètement cons.
Qui, haut en couleur aussi. Hein.
Et haut en couleur, qui, du coup, ça permet un peu de compenser le côté très, très réaliste et très brutal parfois des situations. On se retrouve à se marrer énormément parfois sur certains épisodes.
Mmh. Ok. Donc, une série vivement et chaudement recommandée.
Ah oui, faut pas passer à côté, surtout si on aime les histoires de flics.
Est-ce que tu en décris, j'ai l'impression, pour la rapprocher d'une série plus mainstream, que ce serait plus proche d'un NYPD Blue, en fait.
J'ai pas vu NYPD Blue.
Ah, oh, la meilleure série des années 90. Ah putain, je regardais ça à minuit, ça passait super tard sur France 3, je me souviens.
Sipowicz.
Ah ouais. Putain, la première série où t'avais autant de violence et tout, c'était une tuerie, cette série.
Ok, on va passer à la personne suivante qui va nous présenter une série qu'il aime beaucoup, c'est King Ed.
Oui, alors je vais pas vous parler de Dawson, mais il y a quand même un petit point commun, c'est je vais vous parler de Fringe, dans lequel...
Oh putain, je me cherchais le point commun, ça y est.
Bah, il y a quand même un des acteurs principaux qui, Joshua Jackson.
Aussi, je cherchais le point commun, là. Ah oui.
Bah ouais, Joshua Jackson. Du coup, c'est un peu le truc qui, au départ, m'a fait un peu peur avec Fringe, parce que moi, Dawson, c'est une série que je n'aime pas du tout. Et cet acteur, je le trouvais pas top. Et du coup, comme c'était l'un des personnages principaux de la série, ça m'a fait un peu peur. Mais
il a joué
final...
dans Urban Legend aussi.
Voilà, c'est ça, il avait
et
un
Sex and Tension aussi.
Ouais, Sex and Tension.
Et puis mais, dans Skulls aussi.
Voilà, mais c'est pas des grands films tout ça, hein, quand même.
Oh, quand même, les trois sont plutôt sympathiques.
En tout cas, ça ne vaut pas Fringe. Donc Fringe, donc c'est une série qui date de 2008, de septembre 2008, produite et créée par J.J. Abrams et avec Alex Kurtzman et Roberto Orci. Donc J.J. Abrams, en fait, il était là surtout pour le début de la saison. Après, il a laissé les rênes aux autres créateurs.
Comme il a l'habitude de faire.
Mais du coup, c'est vrai que au moins ça commence très fort avec un épisode qui est comme un film un peu avec une durée de 80 minutes, comme pour Lost. C'est une sorte de double épisode où on a vraiment, on est tout de suite mis dans l'ambiance. Donc à la base, c'était vendu comme un peu une version moderne des X-Files, avec justement Fringe, c'est pour le nom de la division dans laquelle travaille un groupe de policiers, et ils s'occupent de tout ce qui est les affaires qui sont un peu en dehors de la normalité, tout ce qui touche un peu au paranormal, tout ce qui est à la fringe, donc à la bordure du réel. Donc on y retrouve... Anna Torv qui joue Olivia Dunham qui donc est un peu le personnage principal de la série. C'est une femme assez renfermée sur elle-même qui se retrouve recrutée parce qu'elle est mêlée justement à une de ses enquêtes dans le premier épisode, et il se trouve qu'en fait elle a des liens très proche avec justement la Fringe Division. Donc en fait, elle est amenée dès le premier épisode à rencontrer le reste de son équipe, en particulier un scientifique un petit peu fou qui est interprété par John Noble, donc un très très bon acteur.
Qui est celui qui jouait le roi du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, c'est ça.
Il est magistral dans le rôle du scientifique, mais fou mentalement.
C'est un personnage qui est capable de m'arracher des larmes, c'est-à-dire qu'il est...
Ah ouais.
Il le joue tellement bien, le mec, complètement versé dans sa folie du génie scientifique, et puis d'un seul coup avoir une attitude presque d'enfant face à quelque chose, et il est capable de passer du rire aux larmes en deux secondes et t'emmener avec lui, quoi.
Mais il est vraiment magistral.
Ce que j'adore dans son jeu de rôle, son jeu d'acteur, c'est que à chaque épisode, il te dit j'ai envie de milkshake à la fraise. Ou de trucs comme ça. À chaque fois, chaque épisode, il dit j'ai envie de trucs à la réglisse.
En faisant en plus ses autopsies les plus crades du monde.
Ouais.
C'est ça qui est terrible.
Ça lui donne toujours envie de quelque chose.
Et sa folie, en plus, c'est légitime parce que physiologiquement, il lui manque quelques bouts de son cerveau, on va dire. Mais donc, en fait, on retrouve aussi un autre personnage, en fait, qui va justement aider un peu à canaliser ce trublion, qui est donc son fils et qui est lui joué par justement Joshua Jackson. C'est un personnage étrange. Peter Bishop, qui vit un peu en marge de la société. Qui est très intelligent, qui vit un peu de combine. Ils vont le chercher, je crois, au Moyen-Orient.
En Irak, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc, ils vont le chercher pour essayer de dompter un peu le personnage qui est joué par John Noble.
Au début, ils vont le chercher parce qu'il n'y a que lui qui peut aller voir son père. Il n'y a que lui qui est autorisé à voir son père.
Dans l'institut psychiatrique dans lequel il est enfermé, oui.
Ouais.
Et il se trouve que ce personnage est... en fait, à la base de beaucoup de ces enquêtes qui ont un lien avec le paranormal. Donc, en fait, justement, Walter, qui est interprété par John Noble, c'est un personnage qui a, dans le passé, été à l'origine de beaucoup d'expériences un petit peu bizarres, parfois en accord avec le gouvernement, parfois qu'il a fait un peu dans son coin quand il était un petit peu drogué. Et du coup, c'est à l'origine de pas mal des problèmes qu'ils ont lors des enquêtes dans Fringe.
Ouais, des expériences hyper borderline, quoi.
Voilà, très borderline.
Toujours très Fringe, quoi.
Ouais.
Voilà. Et donc à la base, au départ, voilà, on a l'impression d'être un petit peu dans X-Files, sauf que très vite, en fait, on se rend compte que c'est vraiment plus une écriture façon téléfilm avec un fil conducteur très important. Il faut manquer aucun épisode parce qu'il y a beaucoup d'indices qui sont distillés au fur et à mesure. Et on se rend compte que c'est, au niveau de la science-fiction, c'est quelque chose de très ambitieux. Ils ont tenté des choses complètement folles au fur et à mesure des différentes saisons. On voit que les scénaristes, c'est des amateurs de comic book, puisqu'ils tentent des choses un petit peu folles. Ils nous refont carrément un scénario très proche de Crisis on Infinite Earth, avec des histoires de terres parallèles. Après, ils nous font carrément.
Ils ont même placé des couvertures de comics qu'on peut modifier dans cet univers.
Ça, c'était magnifique, quoi. C'est avec des gros clins d'œil à l'univers DC, avec des couvertures iconiques qui sont complètement détournées. Puis, ils nous font aussi une saison où c'est carrément un reboot façon comic book. C'est-à-dire que tout l'univers est réinventé avec tout le passé qui a été changé. Enfin,
un peu comme Eureka, comme on disait tout à l'heure.
Hein. Exactement.
Il y a beaucoup de similitudes en fait dans le traitement des saisons entre Fringe et Eureka.
D'accord. Et c'est surtout une série donc qui est portée par un cast vraiment de très très bonne qualité. Il y a Lance Reddick aussi qui joue le chef en fait de la Fringe Division et qui joue également dans The Wire. Il est super bon.
Qui joue dans Heroes aussi.
Et qui joue dans Heroes. Qui a joué
aussi pourquoi j'ai cité ça, moi.
Et dans Oz, surtout, aussi, il est joué. Et donc, voilà, un super cast.
Mais
voilà.
Il y a aussi... moi, j'aimais bien beaucoup ce personnage. C'était Charlie Francis.
Ah oui, CV.
Qui a aussi joué dans Oz, d'ailleurs.
Ouais. Qui jouait dans Oz. Et alors, pour les fans un peu de SF, il y a quand même aussi Leonard Nimoy qui joue dedans.
Ouais. Il est énorme aussi.
Oh là là.
Ça, c'est la
pas,
super
pas beaucoup, mais à
pas
chaque
beaucoup,
fois...
Ouais, à chaque fois, son apparition est détonnante, quoi.
Au niveau des points qui sont hyper importants dans cette série, c'est une série qui n'hésite pas à utiliser les effets spéciaux et vraiment avec des effets spéciaux de super bonne qualité. Surtout quand ils ont commencé à faire les histoires de dimensions où on voit plusieurs personnages, les doppelgangers de différents personnages sur des mêmes scènes, c'est vraiment super bien fait.
Oui, et puis même la transition d'un univers à l'autre est hyper...
C'est inventif.
Voilà, et tu reconnais directement dans quel univers tu es, quoi.
Et les génériques.
Voilà, alors les génériques en plus changent en fonction de l'univers dans lequel on est, de l'époque. Moi, ça me fait penser, mon meilleur épisode, c'était l'épisode de la saison 3, je crois, c'est la saison 2, qui s'appelle Peter, où en fait on a toutes les explications sur sur Peter, et ça se passe dans les années 80, dans les années 70. Et donc là, on a un générique avec des effets spéciaux tout pourris. C'est excellent.
Qui imite ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur dans les années 70.
C'est la musique de synthèse.
C'est juste énorme.
C'est du style, le générique. C'est horrible, quoi.
Oui.
Et dernièrement, ils nous ont fait carrément un générique qui est un hommage à Blade Runner, avec un épisode complètement fou dans le futur. Enfin... Des trucs de dingue. Et donc, surtout, je voulais parler justement de la musique aussi. On avait Michael Giacchino qui a travaillé sur la première saison. Donc ça, c'est le musicien de Lost, donc avec des très bonnes musiques. Et depuis trois saisons, c'est Chris Stilton qui s'en occupe et qui fait un très, très bon boulot aussi. Au niveau émotion, c'est vraiment hyper important.
On va peut-être quand même parler des quelques petits défauts de la série, parce qu'il y en a.
Ah non
Ah si, il y en a. La preuve, la série s'arrête plus tôt que prévu. Puisqu'elle s'arrête l'année prochaine avec une saison qui fera seulement 7 épisodes.
Plutôt que prévu, elle a quand même été sauvée pour 2 saisons. Hein.
Oui, mais à la base, il va y avoir 5 saisons de 22 et finalement, il y aura eu la dernière saison qui en fait que 13. Et pourquoi ?
Il y a beaucoup de fans, mais il y a un gros socle de fans vraiment. Mais par contre, ils sont pas très nombreux, c'est ça le problème.
Oui, non, mais c'est surtout que les audiences sont cassées la gueule cette année comme jamais. J'ai quand même vu des audiences que je n'avais jamais vues sur un grand network, puisque c'est diffusé sur la Fox. Je me rappelle plus si tu l'avais précisé ou pas. Mais ça a fini à 2 millions quand même. 2 millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est véritablement un four. On a annulé des séries pour moins que ça. Hein.
Le problème, c'est que c'est une série, tu peux pas prendre en cours, tu peux pas.
Oui, mais c'est aussi à cause de leur choix pour cette saison 4, qui a vraiment modifié complètement, tu en as parlé, hein, cette espèce de reboot de la série. Et je pense que ça a déplu à certaines personnes qui ont peut-être raté un ou deux épisodes. Et une diffusion chaotique aussi, hein. Je veux dire, en début d'année, c'était diffusé il y a des moments une semaine sur deux.
Et au niveau des chiffres, en fait, il se trouve que c'est une des séries qui est les plus enregistrées aussi.
Mais oui,
le problème, ça apparaît pas dans les chiffres.
C'est toujours un gros problème aux États-Unis, c'est qu'ils ne comptent pas les gens qui regardent sur Netflix, qui regardent sur TiVo parce qu'ils ont enregistré leur série. Ça, c'est toujours un gros problème pour les séries. Mais finir à 2 millions en direct.
Ah oui, non, mais c'est
pour une série de la Fox, c'est vraiment très risqué.
On a eu très peur de pas avoir de fin.
Mais en fait, la dernière saison qui vient d'être diffusée était et ils avaient prévu la fin au cas où il y aurait une dernière saison. C'est-à-dire que le fameux épisode qui se passe dans le futur, à la base, ne devait pas être programmé, ne devait pas être diffusé. Et vu qu'ils ont eu l'accord de faire une dernière saison, ils ont intercalé cet épisode-là pour permettre d'avoir une trame pour la dernière saison. Parce que l'épisode, le fameux épisode qui se passe dans un futur apocalyptique, celui-là, à la base, si la série s'arrêtait à la fin de la dernière saison, il ne devait pas être diffusé.
Oui,
je vais être langue de pute. Je dirais quand même. Me fait peur. Je dirais quand même que c'est la série qui a fait prendre sa retraite à Leonard Nimoy.
Et oui. Il n'est pas complètement parti. Hein, mais...
Mais c'est plus vraiment lui, puisque monsieur a décidé de prendre sa retraite, ce que je comprends à son âge, mais voilà, ce sont les dernières apparitions qu'il ait fait, c'était là.
Il va revenir dans la dernière.
Ah, il va peut-être sortir de sa retraite. Mais non, mais moi, je
me souviens. C'est même amusant, parce qu'il y a un épisode où, en fait, il n'a pas pu jouer dedans. Ils ont carrément fait un truc très inventif où, en fait, on a la moitié d'épisode qui est en animé, en fait.
Ouais, ça, c'était génial, comme épisode.
Non, mais depuis la saison 2, il dit qu'il va prendre sa retraite, que c'est la dernière fois.
Il avait annoncé officiellement, donc peut-être qu'il sortira de sa retraite exceptionnellement, mais à partir de maintenant, il est vraiment en retraite. Voilà pourquoi moi je retiens.
Bon, en même temps, il est plus tout jeune non plus, hein, mais peut-être.
Soit Star Trek qui l'a gonflé.
Donc en fait, on aura donc une saison 5 qui sera plus courte, et j'étais étonné, ils ont diffusé un trailer à la Comic-Con, ça va reprendre très bientôt, puisque a priori le premier épisode ce serait en septembre, 28 septembre.
Le trailer il est juste énorme, quoi.
Comme et, les,
moi je trouve pas terrible.
Le trailer il reprend les images beaucoup de la saison 4.
Il y a très peu de l'épisode dans le futur de la saison 4.
Ça réintroduit bien toutes les trames qui vont être explorées dans cette nouvelle saison, et... Bon, voilà, je serais très triste quand ça va se terminer.
Je trouve pas que ça reprenne très tôt, hein, Kinghead, puisque la plupart des séries reprennent entre le 20 septembre et le 10-15 octobre en moyenne. Hein.
Ouais, sauf Game of Thrones.
Ça s'est terminé fin avril, fin mai, quoi. Enfin, ça fait très peu de temps que ça s'est terminé, quoi, la saison 4.
Bah, comme toutes les autres séries, enfin, je veux dire, le programme de diffusion d'une série classique.
Octobre, novembre avant, mais bon, peut-être que tu as raison.
Non, les séries classiques, généralement, c'est ça, hein, ça se termine vers le mois d'avril-mai.
Ils ont eu des pauses, en fait. Il y avait 8 épisodes, et après, il y avait une pause de 3 mois. Et
comme
après,
j'ai dit, la diffusion chaotique n'a pas aidé dans les audiences, ça, c'est clair et net. Hein. Ouais. En plus d'avoir une saison où il faut vraiment regarder tous les épisodes. Bon, de toute façon, là, je crois qu'on la regarde tous, cette série.
Voilà. Et moi, juste un dernier petit truc. En fait, moi, je suis tellement fan que j'en écoute même des podcasts dédiés. Et j'aimerais parler d'un des meilleurs podcasts américains qui s'appelle The Fringe Podcast. C'est très facile. Et qui est vraiment très sympa. Où en fait, c'est deux fans et ils ont souvent des interviews et des intervenants du cast. Et donc, c'est toujours passionnant. Et voilà. C'est le genre de série où tu fais, après chaque fin d'épisode, tu fais tes petites théories et tout. Donc, t'aimes bien voir ce que les autres en pensent aussi. Et voilà, je vous invite à écouter ça peut-être si vous êtes vraiment fan.
Mais genre, dernier mot sur Fringe, c'est quand même la série qui a amené les personnages les plus énigmatiques et les plus intéressants, les Observers.
Ouais.
Je les trouve magnifiques, ces personnages.
En même temps, ils sont très proches de ce qu'on voit dans les comics.
Oui, exactement. Mais en termes de série télé, c'est quand même des personnages que l'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, dans les comics, on est habitués, certes, mais dans un média de série télé, c'est rare d'avoir des personnages comme ça.
Qui est hyper ambitieuse au niveau de son scénario, quoi. Donc, il tente des choses complètement folles par moment. Mmh.
Ce qui est un peu dommage, c'est vraiment effectivement cette saison 4 qui est mi-figue, mi-raisin, avec, comme tu disais, un peu ce relaunch. Et puis du coup, on sent qu'ils sont un peu ratés, qu'ils ont essayé de rattraper vers la fin. Mais sinon, la saison 3, c'était pour moi vraiment la meilleure saison... toutes saisons confondues, parce que c'était un truc exceptionnel, quoi. Un épisode sur deux, on ne suivait pas le même univers.
On aurait pu s'arrêter à la fin de la 3, ça aurait donné une très bonne fin.
Je reste assez déçu, moi aussi, de cette saison 4. La preuve, je ne l'ai même pas encore terminée.
Ça s'arrange un peu sur la fin, mais...
Ah, moi, j'étais toujours aussi fan.
Ouais, moi aussi.
Bon, voilà. On t'a pas beaucoup entendu, Corwin, toi, sur Fringe.
Bah, tout simplement parce que je la regarde pas.
Ah, tu ne la regardes pas.
Pas encore.
Au bûcher.
Eh bien, alors, les coffrets, on a jusqu'à 3 premières saisons qui sont en coffret. La saison 4, je pense qu'elle va sortir pour Noël ou un truc comme ça.
Dès qu'elle sera diffusée sur TF1.
Voilà, parce que c'est diffusé sur TF1. Je crois que c'est diffusion assez chaotique, assez tard le soir. Mais par contre, c'est disponible sur leur site de streaming le lendemain de la diffusion américaine. Donc voilà, en VO sous-titré.
D'accord. Mais ma copine regarde, par contre, elle aime beaucoup.
Mais elle a très bon goût.
Elle a le meilleur goût que toi, d'ailleurs.
Que toi, oui, d'ailleurs.
Oh, brun.
Mais bon, comme t'aimes bien The Wire, ça va.
Allez, on va passer à la série suivante. C'est moi qui vais m'en charger. C'est la série Burn Notice. Alors, je crois que c'est une série que personne ne regarde ici.
Si, moi. Mais j'ai vu que jusqu'à la fin de la saison 3.
Parce que King Ed n'a rien à faire de ses journées, donc il regarde beaucoup de séries.
Il faut pas le dire, ça.
Alors, c'est une série qui existe depuis 2007, qui est diffusée sur USA Network, une série du câble encore. Bah, en fait, King Ed, tu es la seule exception puisque tu as choisi une série mainstream, hein, une série sur la Fox. On a tous choisi des séries du câble parce que nous, on a tous bon goût.
Et puis, il faut dire que les séries les plus innovantes viennent souvent du câble. Hein. Oui.
Alors, USA Network, c'est une chaîne du câble, mais c'est limite une chaîne mainstream, hein, de par ses programmes. C'est une chaîne qui a quand même diffusé, je vous donne les séries les plus importantes, hein, à travers l'histoire, Dead Zone, qui a diffusé Monk, ce sont des programmes à eux, qui actuellement diffusent Psych, qui diffusent Royal Pains, qui diffusent White Collar. C'est la chaîne qui diffuse Raw, quand même, pour les amateurs de catch.
Elle diffuse Raw quoi ?
Raw, l'émission Raw de Catch ?
Non, blague de ch'ti.
Ah oui, d'accord. Oh là, j'ai pas compris. Actuellement, en syndication, ils ont des choses quand même comme CSI, comme House, comme Law and Order, SVU, donc c'est unité spéciale en français, les NCIS. Donc c'est une chaîne qui a quand même beaucoup de moyens, une des plus grosses chaînes du câble en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est presque mainstream. Burn Notice. Il y a donc pour le moment 6 saisons, la 6e est en cours de diffusion, c'est une série d'été généralement, elle commence sa diffusion vers le mois de juin à peu près, juin-juillet, elle fait un petit break et elle revient pendant le break d'hiver justement. Elle est diffusée en France sur M6, W9 et 13e rue. Bon, la VF, moi je la trouve assez moyenne. Assez moyenne. À chier, non, les personnages sont, les voix des personnages sont à peu près correctes, c'est juste qu'il manque pas mal d'accent. C'est ça qui est un gros défaut, comme d'habitude, dans les VF. On n'a pas tous les accents et toutes les intonations que peut utiliser les personnages. En moyenne, cette série fait 5 à 6 millions de personnes, avec des pointes à 6,5, 6,8, ce qui est relativement correct pour une chaîne du câble.
C'est pas mal du tout,
même. Ouais, c'est clair. Alors, au casting, on va retrouver Jeffrey Donovan, qui est un mec qu'on a vu passer dans énormément de séries, mais voilà, juste des petits rôles, juste des petites apparitions.
Dans le caméléon.
Oui, bah oui, c'était voilà, c'était un personnage important du caméléon, c'était d'ailleurs un de ses plus gros rôles. Et au cinéma, il a joué dans le dernier film de Eastwood, il jouait dans donc J. Edgar et il jouait le rôle de Kennedy. Pour ceux qui ont vu le film et qui s'en rappellent.
Ouais.
J'ai vu le film, je m'en rappelle pas.
Donc il va jouer le rôle de Michael Weston. Michael Weston, c'est un agent de la CIA qui se trouve grillé. D'où le nom Burn Notice, hein, qui est un espèce de courrier que l'on reçoit d'une agence gouvernementale quand on est quand ils veulent mettre fin à nos activités que l'on a avec eux. Il se retrouve donc grillé en pleine opération. On le balance à Miami en lui faisant bien comprendre que il est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il reste à Miami, mais s'il sort, il sera arrêté et voilà, on le foutra en tôle, quoi, tout simplement. Donc il va essayer de savoir qui l'a grillé, puisqu'il est certain de ne pas avoir commis d'erreur, tout en devant rester à Miami et pour occuper le temps.
Avec qui ?
Oh là là. Et pour occuper le temps, il va s'occuper de justement des problèmes de personnes qui ne peuvent pas aller voir la police pour régler.
Et le truc qui craint, c'est quand même qu'il y a sa mère qui habite à Miami.
Et oui, sa mère avec qui il n'avait pas de très très bonne relation, honnêtement. Donc il va être aidé par son ancienne petite amie qui est une ancienne de l'IRA.
Qui est très bonne.
Jouée par
actrice
qu'on a
dans
vu,
son domaine
qu'on a vu passer dans Doors notamment et par un autre ami à lui qui s'appelle Samax et qui est joué par l'icône Bruce Campbell.
Ouh. Ça c'est magnifique.
Ouais, Bruce Campbell, c'est Evil Dead, c'est Maniac Cop,
c'est les trois Spider-Man.
C'est ouais, pas juste des petits rôles, hein, mais
oui, mais bon, quand même.
Alors ce personnage de Samax, c'est un personnage génial puisque c'est un ancien Navy Seals, un ancien mec qui a fait des opérations sous couverture, etc. Il a un bon passif avec Michael. Et surtout, c'est un gros gigolo puisqu'il essaye de tout le temps coucher avec des...
Il aime bien être sous couverture.
Voilà, il couche avec
tous les types de couverture.
Pour avoir des avantages un peu en nature, hein, avoir une voiture qu'on lui prête, avoir un toit tout simplement. Enfin bon, voilà, un personnage complètement ouf. Et on a la mère de Michael, hein, qui s'appelle Madeline, qui est jouée par Sharon Gless, qu'on a pu voir au casting de plusieurs séries, la série la plus connue étant Queer as Folk, en tout cas pour nous français. C'est une actrice qui a vraiment un énorme passif, puisqu'elle a été quand même nommée, alors pas forcément pour Burn Notice, mais elle a été nommée 10 fois aux Emmy Awards et 7 fois aux Golden Globes. ça va. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui gère. Et depuis la saison 4, on a Jesse Porter, un nouveau personnage qui est joué par Cobie Bell, qu'on avait pu voir dans Third Watch ou New York 911 en français.
Et dans la saison 3, il y a numéro 6.
Oui, alors on a des guests.
Patricia Helfer.
Patricia Helfer qui vient pour tout un arc. On a pas mal de monde qui vont passer comme ça. Et le but de la série, c'est tout simplement que Michael Weston essaye de découvrir qui l'a grillé. Et puis, il va y arriver, puisqu'on n'est pas à la saison 6. Hein. Alors qu'il cherche toujours, il va trouver qui l'a grillé, mais il y aura d'autres enjeux. Cette série est vraiment bien foutue. Ce sont des saisons assez courtes. La première fait 12 épisodes. La 2 et la 3 font 16, et la 4 et 5 et la 6, pour le moment, on n'a pas trop de certitude si elle fera 16 ou 18, mais la 4 et 5 font 18 épisodes.
Tu nous as pas dit, mais en fait, c'est un peu le MacGyver des années 2000.
J'allais venir. Ce qui fait aussi l'intérêt de cette série, c'est que c'est véritablement une série typée années 80, un peu comme Agence Touriste, etc., avec des personnages qui sont vraiment très campés action, un cas par histoire avec une trame un peu plus générale. Et surtout, ce personnage est très proche de MacGyver puisqu'il c'est un ancien ACIA, il a appris à gérer sur le terrain et donc il est capable de fabriquer une bombe ou en désarmer une avec trois bouts de ficelle et un crayon. Il est vachement balèze. Et ça joue aussi vachement dans l'intérêt de la série. La mise en scène est très bonne.
Tout comme la narration, en fait, parce qu'il parle en voix off.
Il raconte, en fait, on suit vraiment les événements à travers ses yeux à lui. Et il y a toujours cette voix où il raconte ce qui se passe. Et puis ce début de générique qui te réexplique la série. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas la série, qu'on prend n'importe quel épisode, on aura un petit résumé de la série qui est toujours le même et qui explique justement les enjeux de la série, les tenants, les aboutissants de chaque personnage. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, vraiment. J'ai pas encore entamé la saison 6 qui a commencé il y a quelques semaines, parce que j'attends d'avoir un petit stock d'épisodes pour me faire ça en marathon, tout simplement. Mais voilà, je ne peux que la recommander. Les personnages sont bien campés, les intrigues avancent, ça bouge. Enfin voilà, c'est pas une série où on s'ennuie. La musique est très très bonne aussi. Elle a gagné deux awards de la guilde des, enfin d'une des guildes de composition de musique aux États-Unis. Et enfin voilà, moi une série que j'aime beaucoup et que je vous encourage à voir.
Ben. J'ai lu sur internet qu'il y avait eu un téléfilm en fait qui a entre deux saisons, je crois.
Saison 4 et la saison 5, qui servent d'épisode 0 donc à la saison 5, on a eu un téléfilm qui s'appelle The Fall of Samax, qui est donc vraiment que centré sur le personnage de Bruce Campbell et qui raconte sa dernière mission avant d'arriver à Miami et de rencontrer Michael Weston. Et ce petit téléfilm est juste une tuerie.
C'est vrai.
Un véritable téléfilm de série B d'action, mais de très bonne facture en fait. Et vraiment un très très bon épisode. Non, il y a quasiment rien acheté en fait dans cette série. C'est ça que je trouve génial. Et on réfléchit pas. Alors si on réfléchit un petit peu sur savoir qui l'a grillé, etc. Puisque on a tout ce genre d'intrigue là. Mais voilà, quand on se laisse porter et on passe 45 minutes vraiment agréables à chaque fois qu'on regarde un épisode. Donc ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage. Je pense que Kignette se joint à moi pour dire que
oui,
qu'il vous encourage. Actuellement, 3 saisons sont disponibles en DVD. Et espérons que les prochaines saisons arrivent très bientôt pour la France. Puisque après, si vous voulez en import, vous avez jusqu'à la saison 5 de 10. On va conclure avec notre ami Jean-Lô.
Oui. Eh bien, merci à tous.
vas-y, casse-toi, c'est pas grave, de toute façon. Si c'est pour me casser, hein, c'est bon. Je peux le faire tout seul.
Jean-Lô, toi, tu as choisi un sujet...
Très MacGyver aussi, hein, puisque j'ai décidé de parler de Stargate SG-1. Et de Watergate aussi. Et de toute façon, les deux vont ensemble parce qu'il faut bien récurer. Bon, bref. qu'est-ce que je voulais dire? Bref, on va se limiter à Stargate SG-1, d'où le rapport à MacGyver, puisque le rôle principal est tenu par Richard Dean Anderson. Alors, juste un petit rappel avant. La série, elle est basée sur le film de Roland Emmerich qui est sorti en 94. Où donc tu avais une équipe de militaires à assister d'un scientifique archéologue qui voyageait à travers l'univers et qui par le biais d'un vortex arrivait sur une planète où là ils affrontaient une race extraterrestre qui était humanoïde mais qui avait des yeux qui brillaient, tout ça. Bon, enfin c'était un concept de SF assez sympa qui a connu un succès relatif. Bah l'histoire a été reprise en fait sous forme de série. Le concept a été racheté par la MGN un peu avant 97 et donc ils en ont fait une série régulière. Donc les créateurs c'est Brad Wright et Jonathan Glasner.
Les premiers épisodes, ils ont été diffusés aux États-Unis sur Showtime en septembre 97 et c'est arrivé en France en février 98 sur Série Club, puis en septembre 98 sur M6. Moi, j'ai vraiment connu sur M6 hein, parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le câble. Donc, c'est une série qui a duré 10 saisons. Il y a eu 214 épisodes en tout, ce qui en a fait pendant quelques années la plus longue série de SF américaine, juste devant X-Files qui avait 202 épisodes. Et ils ont été battus malheureusement quelques années plus tard par Smallville. Triste record.
Ouais, alors, franchement, appeler Smallville une série de SF, là, je trouve qu'on pousse.
Avec 4 épisodes de plus. Mais bon, il faudra quand même rappeler que la plus longue série de tous les temps, c'est Doctor Who, hein, avec 26 saisons. Donc bon, là, il y a encore un record inégalé.
Ben, ça dépend de ce qu'on appelle série.
Ouais.
Parce que si tu comptes les sérioles, ils se font exploser, quoi.
Dans Stargate SG1, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme je disais, donc en fait, au lieu de se rendre compte qu'ils peuvent voyager à travers un vortex que sur une planète, comme c'était le cas dans le film, ils se rendent compte que à travers la porte des étoiles, le Stargate ou le Chapahai, ils peuvent combiner les combinaisons et explorer tout un univers avec chaque combinaison de 7 chevrons, 7 sigles, 7 symboles cunéiformes, comme ils disent dans le film. Oui, parce que j'ai pas précisé, faut voir le film en VF au moins une fois dans sa vie, rien que pour les dialogues, le doublage qui est vraiment pourri, quoi, qui est à mourir de rire. Notamment la blague sur le chameau. Mais bon, je reviens pas dessus. Donc, ils explorent plein de planètes. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que toutes les planètes, ils trouvent des extraterrestres qui sont humanoïdes, qui parlent anglais, anglais
alors, parfait. Ça a toujours été le truc que j'ai trouvé excellent.
Et qui, en plus, ils habitent toujours dans un truc qui ressemble au Kansas, au Texas. Enfin, c'est toujours.
Alors, oui, pourquoi ils sont humanoïdes, c'est normal, puisque les méchants sont amusés à exporter les humains comme main d'œuvre, comme esclaves à travers l'univers.
En fait, le grand méchant principal de cette série culte, c'est les Goa'uld, qui sont des parasites serpentaires qui s'immiscent dans le corps des humains. Et donc,
en gros, c'est un ver solitaire, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais qui se colle au cerveau.
Voilà, c'est ça.
C'est un grand ver solitaire.
Et ils exploitent la race humaine. Donc, ils sont venus chercher dans le berceau de l'humanité, c'était la Terre. Et donc, en fait, on se rend compte que alors là, je fais des grands gestes chez moi, c'est complètement stupide. Toutes les races extraterrestres humanoïdes sont effectivement originaires de la Terre, ce qui fait que souvent on rencontre des espèces, on va dire, sous-développées par rapport aux humains, mais qui ont plus des origines Asgardienne, enfin, ils croient au mythe égyptien ou maya, enfin, il y a vraiment plein de genres, quoi, c'est assez sympathique. On va vite fait parler du casting, donc il y a Richard Dean Anderson qui reprend le rôle de Jack O'Neill qui, dans le film, était interprété, je l'avais marqué par Harvey
Keitel.
Russell, Hervé qui était n'importe quoi, Kurt Russell, et Daniel Jackson qui dans le film était interprété par James Spader, et là interprété par Michael Shanks. On rajoute un rôle féminin qui est Samantha Carter, qui est une femme militaire à poigne, qui va tenir tête à Jack O'Neill, et puis surtout un extraterrestre qui au début est dans le camp des méchants et qui se rend compte que finalement, il s'en rend pas compte parce qu'il a toujours pensé que les dieux qu'il vénérait en fait étaient des faux dieux, c'est Tilk. Voilà, et puis il y a des super rôles secondaires, il y a le général Hammond, le docteur Frazier.
Ouais, général Hammond qui nous a quitté il y a quelques années. Hein.
Bratak et Jacob Carter qui joue le Tokrasel Mac. Et puis la petite apparition de Jonas Quinn interprété par Corinne Nemec.
Parker Lewis.
Voilà, Parker Lewis ne perd jamais.
Moi je suis dégoûté d'ailleurs que Jonas Quinn n'ait pas eu plus de succès auprès du public et qu'il a fallu vite ramener Michael Shanks parce que le public s'en désintéressait, parce que je trouve que c'était un très bon personnage en fait. Il était très 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 bien campé.
Moi, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Mais après, c'est parce que peut-être que j'étais vraiment aussi fan du Dr. Jackson et que il avait connu ses moments de gloire dans la saison 5, juste avant de disparaître temporairement, on va dire. Et que du coup, bah, c'était vraiment leur moyen et que tout le monde l'a vu un peu comme le substitute. Voilà, donc d'un mauvais œil. Mais bon, après, il était pas si méchant que ça, mais il était très effacé comme rôle et je pense qu'il a jamais réussi à s'intégrer ni dans l'équipe ni dans le cœur des téléspectateurs.
Bah, trop puissant aussi, peut-être, comme personnage.
Ouais, le personnage avait un sacré potentiel, mine de rien.
Bah, il avait la capacité de se retenir de tout ce qu'il lisait, déjà. Et donc ça, forcément, ça en faisait un personnage extrêmement puissant.
Oui, bon, bref, on va pas parler de Jonas Quinn pendant des heures, hein, non plus. C'est un petit
personnage. C'est un des meilleurs personnages.
Non. Moi, je préfère parler des extraterrestres qu'on voit dans la série. Donc, il y a, bon, bah, les Goa'uld qu'on a dit. Il y a les Tok'ra qui sont les gentils Goa'uld. On va faire un raccourci. Les Jaffa, donc, qui sont les humains dont, Teal'c fait partie. Mais,
jus d'orange.
C'est une sorte de porteur aux Goa'uld.
Et puis surtout pour moi les meilleurs méchants de la série ce sont les réplicateurs, donc au début ce sont des petits araignées mécaniques que d'ailleurs ils appellent les crabes en VF et puis finalement arrivent à s'adapter et qui arrivent même à devenir humain quoi, enfin à prendre forme humaine au fil des saisons et c'est vraiment pour moi les pires ennemis, ceux qui me font beaucoup plus peur que les Goa'uld. Et puis du côté des gentils on a quand même les anciens et surtout les Asgard, donc
ouais, c'est parce que les anciens on les voit pas vraiment quand même, hein.
Ouais, on les voit pas vraiment. Puis il y a aussi une race extraterrestre qu'on a jamais vue dans Stargate qui s'appelait les Fairlings qui étaient considérés comme des petits Ewoks, des petits nounours à peluche. On les a jamais vus, ça c'est resté un gros mythe.
La quatrième race, parce que soi-disant qu'il y avait cinq races qui
ouais,
étaient censées
dont les humains
diriger l'univers, dont les humains effectivement. Et les Fairlings, on les aperçoit une fois je crois très rapidement, on sait qu'il y a leurs vaisseaux qui sont là mais on ne les voit pas.
Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, en fait, c'est déjà tout le contexte derrière les petits clins d'œil, les petites choses comme ça. Ils ont vraiment pensé le monde. Les Fairlings, c'est une race extraterrestre qu'on n'a jamais vue, mais qui existe. Et puis, c'est surtout que y a un grand esprit de famille dans cette série. Bon, ça a duré 10 ans, donc forcément, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues. Mais il y a beaucoup de petits clins d'œil ou de gags récurrents. Par exemple, il y a toujours dans certains épisodes, la majorité des épisodes, il y a des ananas qui sont cachés dans les plans, donc faut les retrouver. Il y a aussi un mec qui se balade toujours avec une clé à molette géante, c'est le sergent Siler, où il y a un mec aussi qui au début avait un tout petit rôle, c'était le technicien de la porte,
ouais.
Qui s'appelait Walter. Et au fur et à mesure des saisons, en fait, il est devenu, il a eu un rôle plus important, un tout petit peu plus important, parce que les spectateurs adoraient ce personnage, quoi. Ou alors il y a aussi des références aux Simpsons, parce que Richard Dean Anderson, il est fan des Simpsons, et du coup, il y a eu un épisode des Simpsons où Richard Dean Anderson a prêté sa voix et donc son rôle. Et donc il se fait enlever par Patty et Selma, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Il y a aussi surtout au début des épisodes références, il y a des références au Magicien d'Oz où t'as le colonel O'Neill qui dit « suivez la route de briques jaunes » ou « on est vraiment plus au Kansas », enfin des choses comme ça quoi. Et puis il y a surtout Teal'c, le personnage de Teal'c qui est le mec le plus sérieux de l'univers mais qui est un comique caché quoi, il est tout le temps en train de dire le même mot, c'est « Indeed ».
En effet. Ouais, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont amusés à le compter.
Ouais,
sur
vu
toutes
ça.
Les saisons, ils le disent 163 fois.
Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais.
Ben, franchement, je pensais que c'était plus que ça, moi.
Et le son record, je crois que c'est dans la saison 9 ou un truc comme ça, il le dit 26
oui.
fois. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre, quoi. Mais enfin, tant mieux, c'est bien. C'est bien de vivre sa passion à fond.
Mais ça fait partie de tout ce qui touche au mythe de la série et ce côté fan, quoi. Mmh.
J'allais dire, c'est une série qui aussi s'est permis de s'auto-parodier ouais.
Pour le centième et le deux-centième épisode.
Pour le centième et le deux-centième, ouais. Avec, ils ont fait dans la série Extreme. Une série qui s'appelait Wormhole Extreme.
Ah,
voilà.
J'adore ça. C'était bon. Ça.
Et d'ailleurs, ouais, ils s'auto-parodient. Ils relèvent en fait tous les trucs qui vont pas dans la série. Toutes les incohérences ou même dans les séries de SF en général, comme quand on phase à travers un mur, pourquoi on traverse pas le sol, ou les fruits sur les autres planètes, pourquoi ils sont pas d'une autre couleur, pourquoi c'est des ananas justement, des kiwis, des pommes, des oranges, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Ils ont vraiment ironisé sur, enfin ils ont vraiment fait de l'autoparodie quoi. Et puis comme je disais, j'ai vraiment grandi avec cette série. Moi j'avais 15 ans à peu près quand ça a commencé et ça m'a suivi au lycée, à la fac, je m'en rappelle, à la fac, je voulais pas aller aux soirées parce qu'il y avait Stargate qui passait le même soir. J'étais vraiment... Non, mais sérieux, quoi. Et, non, tu viens. Non, il y a Stargate à la télé. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire, les meilleurs épisodes, c'est souvent ceux qui parlent de voyage dans le temps. Alors, il y en a trois, et ça fait une petite trilogie. C'est 1969, 2010, et le troisième, il s'appelle Les Faux Amis, mais en anglais, il s'appelle 2001. Et puis alors l'épisode culte, je crois, de Stargate SG-1, c'est l'histoire sans fin, Window of Opportunity en anglais, où en fait il y a le colonel O'Neill et Tilk qui revivent une boucle, ils la revivent à l'infini, et du coup à chaque fois ils revivent les mêmes situations, ils en peuvent plus à la fin, genre Tilk à chaque fois qu'il commence la boucle, il se prend une porte, il peut pas l'éviter, c'est vraiment bourré d'humour, et à la fois l'épisode est vraiment, la fin est vraiment super triste. Et puis, comme je disais, c'est aussi une grande famille, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui meurent dans la série. Donc là, on est vraiment triste, mais il y a aussi les personnages au fur et à mesure des 10 ans de la série qui ont disparu, et des acteurs qui ont disparu. Effectivement, il y a Don S. Davis qui jouait le général Hammond, qui est mort vers la saison 9, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, qui a été ensuite remplacé par Beau Bridges, hein, justement, dans son rôle.
8, alors peut-être saison 8, et c'était vraiment très triste, quoi, à ce moment-là. Je pense qu'on a tous été attristés. Là, le dernier en date, entre guillemets, c'est le créateur de la musique, le compositeur de la musique pour la série, c'était Joel Goldsmith. Et il nous a quitté il y a pas longtemps, et c'est vrai que voilà, c'est quand c'est la série avec laquelle on a grandi, qu'on a toujours été fan, ça nous fait un petit pincement au cœur de voir ces gens-là qui s'en vont, parce que ils ont bercé notre jeunesse, on va dire notre adolescence. Et même si pour moi c'est peut-être pas forcément la meilleure série de SF, Stargate pour moi ça restera vraiment mon gros coup de cœur, quoi.
Tu n'as pas mentionné quand même le changement de casting sur la fin, quand même, parce que sur les deux dernières saisons, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, qui sont nouveaux, d'autres qui sont remplacés.
Bah alors en fait le seul qui reste vraiment jusqu'au bout, c'est Tilk.
Ouais.
Après il y a Samantha Carter aussi qui reste pas mal, mais elle fait un moment, elle s'en va dans une autre série. Je reviendrai vite fait en deux minutes à la fin. Et il y a l'arrivée de Vala Maldoran, qui est jouée par Claudia Black, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Et de alors l'acteur, c'est Ben Browder. Cameron Mitchell.
Deux transfuges de la série Farscape, en fait.
Et donc, en fait, c'est un peu pour renouveler la série après la saison 7, où là, la première grande histoire de la série avec la fin des Goa'uld se termine. Et on part avec des nouveaux ennemis, surtout qui s'appellent Léori. Bon, c'est un autre délire.
Moi, j'ai moins aimé, en perso.
C'est moins bien. Ah non, enfin, je pense pour la majorité des gens, c'est moins bien. C'est
ah non, j'ai un pote qui préfère ces deux saisons-là, tu vois. Bizarrement.
Bah, moi, je trouvais que ça avait du potentiel, mais que ça s'est foiré. Notamment parce qu'à l'époque, Sci-Fi voulait se débarrasser de la franchise Stargate, en fait. Ils s'en sont jamais cachés. Mais il y avait de bonnes idées, puisque pendant 8 saisons, le gros ennemi, c'est des dieux du panthéon polythéiste, qu'on trouve un peu à droite à gauche. Et là, ça a changé, puisque les ennemis, c'était un dieu monothéiste.
Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait cette
idée-là. Le concept était pas mal, mais c'est retombé un peu comme un soufflet parce qu'ils ont voulu aller trop vite et ils ont pas assez développé leur personnage là-dedans.
Ils ont pris trop leur temps au départ et puis finalement trop accéléré à la fin.
Et trop accéléré à la fin, voilà. Il n'y a pas eu juste milieu.
Mine de rien aussi, le gros problème, ça a été le départ de Richard Dean Anderson qui... Effectivement, il avait voulu quitter la série pour rester avec sa fille. Il a eu une fille pendant qu'il avait la série. Je crois qu'il en a eu deux.
Enfin, il continuait de la produire pour engranger le fric, hein, donc.
Et du coup, il a décidé de sortir de la série pour vivre un petit peu, quoi. Il a pris sa retraite, entre guillemets. C'est tout à son honneur, mais c'est vrai que du coup, ça a un petit peu plombé la série. Du coup, juste un dernier petit mot pour dire que, il y a eu nombreux dérivés. Donc, il y a eu des comics, il y a eu pas mal de comics, notamment chez Dynamite. Il y a eu un dessin animé qui a fait un flop total, même en France. Ils ont diffusé 3-4 épisodes. Ça s'appelait Stargate Infinity.
Infinity, oui.
Et ça se passait dans le futur avec un groupe de jeunes. C'était un petit peu Generation X de Stargate. Après, il y a eu d'autres séries par contre bien meilleures. Il y a eu Stargate Atlantis qui est pour moi la deuxième très bonne série de la franchise.
Moi, je préférais limite Atlantis.
Et disons que c'est pas tout à fait le même concept. Et au bout de la saison 3-4, ils ont vraiment trouvé leur rythme. Et
il faudra refaire
les épisodes sont géniaux, quoi.
Il faudra peut-être refaire un autre spécial série sur Atlantis, hein, puisque c'est
cool. Oui,
après, même sur la franchise.
Et puis le Stargate Universe, qui alors là, c'est
On n'en parle pas.
On va dire vite fait, c'est un sous-Battlestar, c'est-à-dire ils se retrouvent coincés dans l'espace et ils doivent survivre à bord d'un vaisseau
ou un sous-voyageur.
Ils ne connaissent rien. Et du coup, c'est très moyen, très moyen. Et puis il y a eu aussi des livres, il y a eu des jeux vidéo plus ou moins avortés. Et puis il y a eu un super jeu de plateau aussi. Des jeux de rôle et un super jeu de plateau chez Tilsit, qui était vraiment très sympathique. Moi je l'ai acheté, il fallait recomposer 7 chevrons et tu tombais sur des races d'extraterrestres qu'il fallait combattre, soit des Goa'ulds, soit d'autres. Il y avait notamment une race, je me rappelle, à chaque fois que tu tombais contre elle, il fallait faire un double 6 ou un truc comme ça, donc le truc impossible. Et si tu tombais sur cette carte-là au début du jeu, bah, en une minute, tu avais perdu la partie. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Mais voilà, quoi, c'était vraiment le bon délire. Et puis il y a eu des figurines, il y a eu plein de choses. Et voilà, quoi, c'est vraiment pour moi une série culte dans le même esprit que Star Trek. Un petit peu plus moderne, un petit peu plus militaire, mais qui restera vraiment dans les mémoires comme la série populaire qui a relancé la SF à la télévision.
Je pense qu'on l'a tous regardé de toute façon.
Ouais. Oui.
Moi, j'ai vu le premier épisode, j'ai trouvé que ça ressemblait à Hercule et j'ai laissé tomber, quoi.
Bruno, tu sors.
C'était genre le monstre de la semaine, complètement pourri, mais bon, voilà. Peut-être que j'essaierai un jour de m'y remettre.
Il faut, c'est un incontournable de l'ASF. Ok, bah écoutez, j'espère que ce premier numéro de notre spéciale série vous aura plu. On se retrouve d'ici peut-être une petite quinzaine de jours, 3 semaines pour la deuxième partie avec les autres membres de Comic City. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos séries, vous aussi cultes. Et qui sait, si cette formule de spéciaux vous a plu, eh bien peut-être qu'on en refera d'autres. Un peu plus basé sur une seule et même série où on pourra disserter et débattre de l'intérêt ou non, justement, de cette série. Merci à vous, messieurs.
Merci
de nous avoir
invités. Oui, en même temps, c'est juste qu'on avait dit qu'on le ferait depuis le mois d'avril, donc.
C'est vrai.
Voilà, il fallait bien. Et on se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines. D'ici là, comme d'habitude, vous avez les weekly news maintenant, et puis le Comic City, le VF mensuel. Vous avez de quoi vous éclater. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.
Ciao, ciao. Ciao.
Salut les enfants.
Et c'est moi qui dis ciao, ciao.
Poète.
Ah bravo.
En effet.
Indeed. Tech maté, maître Bratak.